Le rendez-vous d'Haïti des Amériques sur FIS est avec Hugo Lanoé. Bonjour Hugo.
Bonjour Edmond, bonjour à toutes et à tous. C'est ravi de vous retrouver 20 minutes ensemble autour de l'actualité d'Haïti et des Amériques. Au sommaire, des États vénézuéliens contraints de rationner l'essence pour faire face aux pénuries. La situation dans le pays ne s'améliore pas, elle empire même. Correspondance sur place dans un instant. Des blouses blanches et des enseignants dans les rues du Honduras aujourd'hui, tous mobilisés contre la privatisation rampante de la santé et de l'enseignement. On en parle avec Marie Normand dans la revue de presse. Une solidarité à géométrie variable. Alors que des centaines de millions d'euros ont été récoltés pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, le musée de Rio de Janeiro, lui, peine à renaître de ses cendres 9 mois après un incendie ravageur. Son directeur appelle à l'aide, vous l'entendrez. Un attaquant joue la défense. Accusé de viol par une femme, Neymar publie divers éléments sur la toile pour se disculper. Le joueur du Paris Saint-Germain a été entendu par la police brésilienne hier. Et avant d'écouter des nouvelles de l'outre-mer, comme tous les mardis, l'actualité d'Haïti, c'est avec Godson Pierre d'Alter Press. Bienvenue à tous.
RFI, la radio del mundo.
C'est une image qui témoigne du quotidien difficile des Vénézuéliens. Des queues interminables aux stations d'essence. L'attente est telle qu'elle en devient dangereuse. En témoigne la mort hier d'un homme de 60 ans qui a succombé à une crise cardiaque après avoir attendu 72 heures pour faire le plein. Ça s'est passé dans l'état de Mérida, dans le nord-ouest du Venezuela. Les pénuries ne semblent donc pas s'arranger. En cause, la vétusté des installations. Le pays ne parvient plus à raffiner son pétrole en quantité suffisante. Et l'embargo américain fin avril sur l'industrie pétrolière. Conséquence, depuis hier, certains États décident de rationner l'essence. Benjamin Delisle est sur place pour RFI.
Plus la pénurie se prolonge, plus les automobilistes se précipitent dans les stations-service pour faire des réserves. C'est le constat qui a poussé Justo Noguera, le gouverneur de l'État de Bolivar, à mettre en place un rationnement dans la distribution.
La dynamique normale d'approvisionnement en essence est un plein tous les 2 jours maximum. Dans la situation actuelle, les gens veulent faire le plein tous les jours, et cela a pour conséquence d'augmenter exponentiellement les files d'attente.
De grandes crecimientos en las colas.
Pour réduire ces files de moitié, la distribution va donc être échelonnée chaque jour en fonction de la plaque d'immatriculation. Les véhicules dont la plaque se termine par un nombre pair pourront faire le plein le lundi, les impairs le mardi et ainsi de suite jusqu'au dimanche. Dans l'état de Lara, la gouverneure Carmen Melendez a elle choisi de limiter l'approvisionnement à 30 litres d'essence par semaine et par véhicule.
Nous n'avons plus que 48 camions-citernes pour nous approvisionner en essence. Et cela ne suffit pas à notre consommation journalière. D'autant que nous avons 102 stations-service à remplir.
Malgré les efforts des autorités, de plus en plus de Vénézuéliens préfèrent désormais passer par le marché noir pour se fournir en essence, quitte à payer plus cher. Et quitte aussi à aggraver les pénuries. Benjamin Delisle, Caracas RFI.
La revue de presse des Amériques. Bonjour Marie Normand.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et direction le Honduras, Marie, le pays connaît d'importantes manifestations depuis la semaine dernière.
Oui, elles ont commencé jeudi. Elles se sont répandues dans tout le pays, comme le rappelle cette galerie photo publiée aujourd'hui sur le site du journal hondurien La Prensa. Une mobilisation contre des réformes du secteur public, plus précisément 2 décrets gouvernementaux qui prévoient une privatisation des services de santé et d'éducation, 2 secteurs négligés pendant des décennies, selon l'éditorialiste de la apprennent ça au préjudice d'une population exclue aux ressources limitées. Alors, face à ces manifestations et ces journées de blocage de route, les décrets ont été abrogés. Plusieurs organisations enseignantes ont décidé la reprise des cours aujourd'hui, mais la mobilisation se poursuit. Écoutez l'une des responsables de la plateforme pour la défense de la santé et de l'éducation publique.
La mobilisation commencera à partir de las 7 de la mañana en la entrada principal.
Voilà, la mobilisation à Tegucigalpa, vous l'avez entendu, a commencé à 7h du matin. C'est en ce moment devant l'entrée de l'Université Nationale Autonome du Honduras. La plateforme appelle à des mobilisations massives aujourd'hui dans les 18 départements du pays pour obtenir un dialogue national avec des garanties. C'est ce qu'écrit Confidential Honduras.
Le Honduras, le pays d'origine de nombreux migrants qui tentent de gagner les États-Unis en passant par le Guatemala ou encore le Mexique. Sous la pression de Washington, Mexico redouble d'opérations pour arrêter ces clandestins originaires d'Amérique. Amérique centrale.
Mais c'est en tout cas ce que soutient l'article en une du New York Times aujourd'hui. Selon le journal américain, les rafles de migrants se sont multipliées ces dernières semaines. Et les autorités mexicaines ont démantelé des caravanes de migrants et érigé des barrages routiers 24 heures sur 24 le long des routes qu'ils utilisent habituellement. Et les détentions et les expulsions se multiplient.
Et pourtant, Marie, des dizaines de milliers de sans-papiers se déplacent toujours vers le nord chaque mois.
Le journal publie une photo de ces radeaux qui permettent aux migrants de traverser la rivière Suchiate, frontière naturelle entre le Guatemala et le Mexique. Des planches en bois attachées à des chambres à air qui flottent dans les deux sens tout au long de la journée, transportant ouvertement des migrants sans papier, des résidents locaux et des produits qui se vendent au marché noir. La répression des autorités mexicaines n'a pas affecté ce trafic illégal selon les passeurs. Et l'un d'entre eux indique au journal avoir fait franchir la frontière à plus de 150 sans papiers en seulement 48 heures. Le gouvernement mexicain subit d'intenses pressions de la part du président Trump, rappelle le New York Times, avec cette menace maintenant de droits de douane sur les importations mexicaines à partir du 10 juin. On en a parlé sur RFI. Une mesure contre-productive, insiste encore aujourd'hui le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard.
Les taxes douanières pourraient provoquer une instabilité financière et économique, ce qui signifie que le Mexique pourrait voir réduite sa capacité à contrôler les flux migratoires et à offrir des alternatives aux migrants qui sont arrivés récemment dans le pays. Que propose le Mexique ? Travailler conjointement avec les États-Unis, comme cela a été le cas, ainsi qu'avec le reste de la communauté internationale, en particulier avec les pays concernés par le transit et l'origine de ce flux migratoire, avec pour objectif final la réduction des migrations forcées.
Voilà le chef de la diplomatie mexicaine. À l'instant, le président Andrés Manuel López Obrador insiste sur le fait que son pays a déjà fait sa part du travail. Rien qu'entre décembre 2018 et mai 2019, les autorités mexicaines ont renvoyé plus de 80 000 migrants dans leur pays d'origine, principalement en Amérique centrale. Et c'est ce que rappelle le quotidien mexicain Milenio. Le Washington Post s'interroge de son côté sur l'avenir de cette mesure choc sur les droits de douane prise cette semaine par Donald Trump, car la loi donne au Congrès le droit de passer outre sa décision d'urgence nationale en adoptant notamment une résolution pour le désapprouver. Et d'après le journal, les élus républicains du Congrès ont commencé déjà à y réfléchir.
La presse américaine passée en revue par Marie Normand. Merci Marie. Direction le Brésil à présent. Ravagé par les flammes en septembre dernier, le musée national de Rio de Janeiro peine à renaître de ses cendres. Principal problème, le manque d'argent. Et force est de constater que le sort de ce monument ne suscite pas la même solidarité que la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Pour couronner le tout, le gouvernement de Jair Bolsonaro réduit les dépenses dans le domaine de la culture. Pour sauver l'édifice, son directeur Alexander Kellner mène une campagne en Europe pour récolter des fonds. Il était en France ces derniers jours, Adriana Brandao l'a rencontré. Entretien.
Notre situation est un peu contradictoire. D'un côté, les choses vont bien, du point de vue de la reconstruction. Sous le gouvernement de Michel Temer, nous avons reçu un peu plus de 3 millions d'euros de la part du ministère de l'Éducation. Une somme destinée aux premiers travaux à mener dans le palais pour avoir accès aux œuvres à restaurer, à la reconstruction interne du bâtiment et au projet pour la nouvelle exposition. Nous avons également reçu 180 000 euros pour un projet pour lequel nous avons déjà sélectionné l'entreprise de restauration de la façade et des sculptures du musée. Ça, c'est en cours, c'est le bon côté. Mais le côté le plus complexe, c'est le quotidien. Mon quotidien est horrible. J'ai réellement besoin d'aide. Si nous ne recevons pas d'aide, nous courons un risque sérieux de devoir arrêter pratiquement tout ce que nous faisons, aussi bien notre activité scientifique que la question directe de restauration. Ce serait une nouvelle tragédie au cœur de la tragédie.
Triste coïncidence, votre tour d'Europe à la recherche de soutien arrive au moment où il est révélé que le gouvernement brésilien a décidé d'une coupe de presque 2 millions de reais sur les fonds destinés à la reconstruction du musée national.
Ce qui me préoccupe le plus dans tout ça, c'est que ce n'était que la première partie du budget dont nous avons besoin au total. Si quelqu'un demandait Combien va coûter l'intégralité de la reconstruction et de la recomposition du musée national? Je serais obligé d'avouer que je ne sais pas. J'ai une certaine estimation qui tourne autour des 15% de la somme qui a été récoltée pour Notre-Dame de Paris.
Justement, la France et le Brésil ont une histoire commune d'expéditions scientifiques. On se souvient par exemple de celle de Claude Lévi-Strauss dans les années 30. Durant ces expéditions, des éléments étaient collectés aussi bien pour la France que pour le Brésil. Ces collections brésiliennes présentes aujourd'hui dans les musées français pourraient-elles aider à retrouver une partie du patrimoine du musée national ?
Oui, c'est sûr. Pour être bien clair, je ne parle pas de rapatriation ou rien de ce genre. Ça, c'est une problématique politique qui doit être gérée par l'État. Ma position est très simple. Tous les musées, pas seulement en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne ou au Portugal, tous ces musées ont des pièces qu'ils pourraient peut-être donner au Brésil. Je ne demande pas des pièces uniques et rares, mais des pièces qu'ils ont peut-être représentées plusieurs fois. Cependant, il faut que ce soit bien clair dans nos esprits. Le Brésil doit mériter ces nouvelles collections. Nous ne les mériterons que si nous arrivons à reconstruire un palais avec les meilleures normes de sécurité. Je crains que notre gouvernement n'ait toujours pas compris l'importance du musée national et la responsabilité qui l'accompagne.
Je crains que le gouvernement brésilien n'ait pas compris l'importance du monument. Voilà la réaction d'Alexander Kellner, le directeur du musée de Rio. Il répondait aux questions d'Adriana Brandao du service lusophone de RFI. Et on reste au Brésil où l'affaire Neymar défraie la chronique. Accusé de viol par une jeune femme, l'attaquant du PSG joue la défense et publie des éléments pour se disculper. Menacé d'une possible condamnation, le Brésilien a été entendu par la police hier dans le centre d'entraînement de la Seleção, la sélection nationale, et cela à 10 jours seulement de la Copa América, François Cardona.
Neymar voit sa stratégie de défense se retourner contre lui. La vidéo publiée sur son compte Instagram dans laquelle il explique être victime d'un piège pourrait lui coûter cher. La mise en ligne de ses images intimes est punie par le code pénal brésilien. Le bureau d'enquête des cybercrimes de la police de Rio de Janeiro a déjà entendu le joueur dans le centre d'entraînement de la sélection nationale. Mais il devra également comparaître pour une audition dans les jours prochains. Si les charges étaient retenues contre lui, Neymar risquerait jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, la peine pouvant même être aggravée en cas de vengeance ou de volonté d'humiliation. Instagram a pris la décision de supprimer le contenu en ligne qui divise les Brésiliens. L'affaire Neymar agite tout le pays, fait la une des journaux, le joueur est très attaché à son image dans l'opinion publique. Le père de Neymar s'est justifié en affirmant qu'il préférait ce type de crime de divulgation d'images sur Internet à une accusation de viol. Mon fils devait se défendre rapidement, a-t-il ajouté. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'actualité haïtienne, comme tous les mardis, avec Godson Pierre, notre confrère d'Alter Press. Godson, l'affaire Petro-Caribé, nous en parlions déjà hier. Après la publication du dernier rapport, eh bien la Cour supérieure des comptes met le cap sur la préparation de quitus et d'arrêt de débet.
La Cour se prépare en effet à rendre au public ses décisions concernant les cas traités dans le cadre de ses travaux sur le gaspillage présumé des fonds d'aide vénézuélienne à Haïti, soit environ 4 milliards de dollars. Ces arrêts ou ces quitus seront bientôt délivrés aux personnes indexées dans le rapport remis le 31 mai écoulé au Sénat. C'est ce que fait savoir la Cour sur son compte Twitter. De hauts dignitaires de l'État, dont le président Jovenel Moïse, des premiers ministres, ainsi que d'anciens ministres, d'anciens directeurs généraux et des responsables de firmes de construction sont indexés dans la mauvaise gestion des fonds. L'émission des arrêts de débet constituera un pas important, jugent les Petro-Challenger Numpabdomi, ces jeunes qui sont mobilisés depuis l'année dernière pour contraindre l'État à faire la lumière sur la gestion et l'utilisation de l'aide vénézuélienne. Ces jeunes appellent à une nouvelle manifestation pour le 9 juin à Port-au-Prince afin d'exiger la démission de Jovenel Moïse et le procès Petro-Caribé.
Une position, Godson, partagée par plusieurs partis d'opposition et par des organisations de la société civile.
Fausse opposition politique qui regroupe plusieurs partis et coalitions opposées au pouvoir en place réclame le jugement de toutes les personnes citées dans le rapport de la Cour des comptes. Le collectif 4 décembre, une organisation de la société civile, croit que le moment est venu pour l'administration de Jovenel Moïse de faire place nette. Des organismes de défense des droits humains et le réseau des plaignants dans l'affaire Petro-Caribé attendent la mise en mouvement de l'action publique contre les personnes incriminées. Mais les conseillers proches du pouvoir ne restent pas les bras croisés. Ils sont les protagonistes d'une polémique qui prend naissance autour du travail de la Cour des comptes. Le docteur Rudy Erivo, porte-parole du parti au pouvoir, qualifie le rapport de mensonger et diabolique, mais le sénateur Joseph Lambert, ancien président de l'Assemblée nationale et allié du pouvoir, exhorte Jovenel Moïse à se mettre à la disposition de la justice.
Et pendant ce temps, la crise gouvernementale, elle, persiste.
Toujours pas de rendez-vous pour le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin au Sénat, où trois tentatives de réaliser une séance de ratification ont été mises en échec par la minorité d'opposition. La majorité présidentielle à la Chambre des députés, qui souhaitait prendre le relais en attendant une situation favorable à la Chambre haute, est maintenant dans la tourmente. La révélation d'un éventuel projet de démission de 70 députés afin de rendre inopérant le corps et fournir ainsi des marges de manœuvre au chef de l'État suscite des remous au sein même de cette majorité.
Godson Pierre, notre partenaire d'Alter Press pour l'actualité haïtienne. Merci Godson, on vous retrouve la semaine prochaine, mardi prochain. En attendant, on reste dans les Caraïbes avec le journal de la première. Bonjour Tiziana Maron.
Bonjour Hugo et bonjour à tous.
Et Tiziana, depuis une semaine en Martinique, professeurs et parents d'élèves bloquent les accès au collège d'Asselin de Beauville à Ducos.
Oui, c'est un blocage quasi total de l'établissement scolaire. Seuls les élèves qui ont des examens et les professeurs qui doivent les surveiller sont autorisés à entrer dans les locaux. Un mouvement pour protester contre la fermeture annoncée de 3 classes à la rentrée prochaine, ce qui serait un coup dur pour ce collège qui compte un effectif de près de 1000 élèves. Réunis en assemblée générale hier matin, les enseignants se disent inquiets. Écoutez Karine Michalon, professeure d'anglais au collège et membre du SNES FSU. Elle est au micro de Pedro Monerville de Martinique la première.
Le malaise est très présent dans notre établissement. Nous sommes inquiets pour nos élèves parce que nous aurons moins de moyens pour assurer l'avenir des élèves. Nous devons faire de bons citoyens, mais dans quelles conditions? Nous sommes inquiets par rapport à la sécurité de nos élèves, puisque nous avons connaissance par notre chef d'établissement que nous perdrions 6 contrats aidés. Nous avons quand même 927 élèves dans le collège à Sainte-Beauville. L'encadrement sera désormais impossible. Pour l'instant, nous attendons de voir si le recteur répond à notre demande et si nous revoyons nos futures actions.
Greenpeace France, de retour en Guyane pour défendre le projet d'un vaste réseau de réserves marines. L'ONG accompagne des scientifiques qui étudient les tortues marines. On fait le point avec Sébastien Laporte de Guyane la première.
Après sa mobilisation depuis 2 ans visant à protéger le récif de l'Amazone face au groupe pétrolier Total, au large du Brésil mais aussi en Guyane, Greenpeace revient sur notre territoire. Cette fois, l'ONG de protection de l'environnement accompagne une équipe de l'Institut Hubert Curien qui effectue des recherches scientifiques sur les tortues marines. La mission se déroule dans la réserve naturelle de Lamana et à Cayenne, lieu de ponte des tortues luttes à cette saison. Le rapport publié en avril par l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité, l'a confirmé. Des milliers d'espèces pourraient être menacées d'extinction, dont les tortues marines. Greenpeace entend défendre les océans en créant un vaste réseau de réserves marines. L'ONG estime que les gouvernements ont l'opportunité cette année de répondre à cet impératif à travers le traité sur la haute mer actuellement en cours de négociation à l'ONU.
Sébastien Laporte de Guyane, la première. Et avant de terminer, cap sur la Guadeloupe, le mauvais temps plombe la campagne sucrière. Les pluies de ces derniers jours ont fortement perturbé la récolte. La coupe est totalement suspendue depuis hier. L'usine de Gardel a dû donc stopper le broyage des cannes. À ce jour, 330 000 tonnes de cannes ont été traitées. Il en reste environ 5 000 à récolter d'ici fin juin. Bonne journée.
Merci Tiziana Maron de la première et bonne journée à vous également. Le journal d'Haïti et des Amériques, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Claude Battista à la réalisation, merci à lui, merci à vous de nous avoir suivis. Cette édition, je vous le rappelle, est à retrouver sur notre site RFI.fr et sur les réseaux sociaux. L'essentiel de l'actualité américaine, caribéenne, haïtienne, en son et en images également sur nos applications mobiles. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. D'ici là, n'oubliez pas, restez curieux.